On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Eh bien, bonjour à tous. Merci encore une fois d'écouter Radio Pont. Aujourd'hui, on se déplace. On va sur les lieux où les choses se passent. On a été invité à La Rochelle, dans un bar qui s'appelle Lion Bar, que je vous conseille, les auditeurs, venez-y, vous allez découvrir un endroit assez extraordinaire, dans le sens où c'est pas un bar comme on pourrait s'y attendre. Donc, Baptiste de l'association Survie Charente, dont vous avez pu entendre l'interview l'autre jour sur nos ondes, nous avait gentiment invité à venir à un moment d'exception, un moment rare, dans ce bar à La Rochelle, parce qu'aujourd'hui, monsieur Alain Deneau nous fait l'honneur d'être ici pour parler, pour discuter avec les Rochelais de son nouveau livre qui s'appelle « De quoi Total est-elle la somme ?» Monsieur Alain Deneau, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi et ému de vous avoir en face de moi.
C'est partagé.
Donc merci beaucoup. On est quelques minutes avant ce moment de discussion. Peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu encore l'occasion de lire vos livres, de lire vos essais, est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Je suis québécois, j'ai fait mes études en France, du DEUG à la thèse, là, pour me référer à l'ancien régime universitaire français qui a été le mien. J'ai fait une thèse sur la philosophie de l'argent de Georg Simmel sous la direction de Jacques Rancière à l'Université de Paris 8. Et après coup, je me suis plutôt intéressé à un genre qui est l'essai et à un certain nombre d'études un peu à la Simmel, là, c'est-à-dire philosophico-empirique. J'ai réservé ces deux types d'écrits, donc les essais et les études, à deux éditeurs respectifs. C'est-à-dire que les essais qui sont un peu plus intuitifs, qui reposent un petit peu plus sur des propositions de pensée qui ne sont pas encore tout à fait dégrossies, mais qui restent néanmoins, prometteuses, hein, sont réservés à l'éditeur Lux. J'ai fait paraître chez Lux la gouvernance, la médiocratie et politique de l'extrême-centre. Et chez un tandem d'éditeurs franco-québécois, Rue de l'Échiquier en France et Éco-Société au Québec, j'ai proposé des études qui sont plus documentées, plus fouillées, plus structurées et qui portent sur des objets graves de notre époque en ce qui concerne les pouvoirs que sont devenus les grandes institutions financières et les multinationales dans le domaine de la grande industrie. Ça a donné Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale, Paradis fiscaux, la filière canadienne, et maintenant, de quoi Total est-elle la somme? Accompagné aussi d'ouvrages portant sur les paradis fiscaux, une escroquerie légalisée par exemple, ou offshore, qui a aussi été coédité en France par La Fabrique. Donc c'est ce qui résumerait mon travail.
Un travail énorme de documentation, de recherche et de propositions philosophiques, parce que moi, en sachant que j'allais venir vous rencontrer, je me suis dit, mais comment un docteur en philosophie s'intéresse aux mécanismes de l'économie, de la finance. Comment est-ce que l'éthique arrive ici au point de jonction de ces deux disciplines qui pourraient paraître assez séparées finalement?
Disons que la sensibilité philosophique qui peut être en jeu en ce qui concerne les objets que je me suis donné, c'est-à-dire les paradis fiscaux, la criminalité financière, le pillage institué, le néocolonialisme de type industriel, la corruption, et aussi l'élaboration de nouveaux pouvoirs que sont les multinationales, a beaucoup à voir avec la philosophie politique. Bon, donc c'est la sensibilité qui est engagée, le champ qui est engagé concerne la philosophie politique au sens où les objets dont il s'agit, sont tellement graves. Ils ont une portée telle et une profondeur si avérée qu'ils en viennent à affecter le sens même des termes courants de la pensée politique. C'est-à-dire que des mots comme « loi », « droit », « frontière », « crime », « souveraineté », « territoire », « autorité politique » changent de sens dès lors qu'on se penche sur les objets que j'ai mentionnés, puisqu'ils sont si influents et si conséquents dans l'ordre mondial tel qu'il évolue, qu'ils en viennent à affecter ces mots de notre patrimoine politique dans leur sémantique même. Et plutôt que de mobiliser les termes classiques de la pensée politique pour, et de la philosophie politique pour aborder, appréhender un monde qui est en évolution, pour ne pas dire parfois en mutation, je me suis intéressé à la façon dont ce monde-là affectait le sens des mots. Donc j'ai pris les choses à rebours et ça a supposé donc un travail d'ordre conceptuel qui est celui de la philosophie.
Il y a dans la manière dont vous présentez justement la déformation de ces mots, il y a de la linguistique aussi là-dedans. Ça me fait penser à Noam Chomsky évidemment, qui est aussi décortique. C'est la manière dont on remplace insidieusement certains mots par d'autres pour modifier le mode de pensée finalement. Des sociétés et des peuples pour induire des nouveaux comportements ou des nouvelles définitions.
Oui, oui, c'est intéressant de voir. Est intéressant de voir deux choses. D'une part, comment parfois on est confronté à des fixations qui rendent le discours caduc, mais néanmoins toujours audible, toujours au fond usité, bien qu'il soit en retard sur le temps. Et d'autre part, parfois, des transformations qui sont idéologiques et qui, elles, sont en quelque sorte au devant de leur temps parce qu'elles sont voulues par des pouvoirs. Et je donne deux exemples pour préciser. Dans le premier cas, on a très clairement les multinationales qui sont présentées comme des sociétés actives dans des filières. En tant qu'elle serait encadrée par des états de droit. On va encore avoir cette espèce de lecture pyramidale de l'organisation de société, à savoir qu'il y a un état qui, au fond, est au fait de la pyramide et régit ce qui se passe en vertu de ses prérogatives sur un territoire dans la société civile, laquelle comprend des entreprises, des organisations civiques, des individus. Bon, alors que ce n'est plus du tout ça. On ne peut pas se satisfaire d'un tel modèle aujourd'hui. Il faut voir les multinationales, au contraire, comme des pouvoirs qui, depuis 100 ans, ont été capables parfois de façonner des États, de se donner des États sur mesure pour satisfaire leurs intérêts et qui sont capables d'établir un rapport d'égal à égal avec des chefs d'État quand il ne s'agit pas d'un rapport de domination pure et simple. Bon, et donc, si on n'arrive pas à penser ces pouvoirs en tant qu'ils constituent des autorités d'un genre nouveau, exercées d'une manière spécifique par rapport à une idée de la loi qui est aussi propre à eux, on fait fausse route. Et il ne sert à rien de penser que ces organisations privées hyper puissantes dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la pharmaceutique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'informatique, sont encadrées par quelque autorité publique que ce soit. Donc là, on voit que du point de vue des concepts, il faut mettre à jour un certain nombre de concepts, voire en créer, pour être capable de suivre du point de vue de la pensée ce qu'il en est de la marche du monde. Dans l'autre cas de figure où je disais que les termes vont plus vite que le réel et se trouvent au fond à façonner des imaginaires, des perspectives qui sont factices et artificielles, je parlerai de la gouvernance. La gouvernance est un mot-valise qui a été développé par des théoriciens de l'organisation privée, mais recyclé dans le domaine politique par des idéologues comme Margaret Thatcher, par exemple, et les sémanticiens de la Banque mondiale, pour abandonner tout référent politique. Abandonner tout référent politique au profit d'un discours de la gestion privée du management. Et on a voulu imposer le discours du management, l'idéologie du management, dans des secteurs qui ne concernaient plus l'entreprise privée. qu'on parle en termes managériaux pour gérer une entreprise qui s'intéresse au cinéma, à la diffusion de films commerciaux ou à la production de yaourts ou je ne sais trop quoi, on peut débattre, mais on est dans, au moins dans un discours qui est adapté à son objet. Ensuite, on peut questionner quels sont ces films, des clients, exactement, pour répartir le pouvoir dans des grands groupes que sont justement les multinationales et qui apparaissent au 20e siècle. Bon, mais qu'on utilise ces notions-là pour penser la façon de gérer une maison de la culture, un hôpital, une société de transport en commun.
Transposer ces méthodes à l'intérêt général.
Exactement.
Bien public.
Fait peur.
Ça fait peur.
Parce qu'on... Et à la politique en général, à un ministère, à une université, à l'action politique. Hein, vous avez par exemple, comment s'appelle-t-il, un candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Rastignac qui a pour point de vue sur les choses une seule lecture managériale où on va avoir plus de
Macron,
ceci.
Ah,
pardon, j'ai fait un lapsus. donc effectivement, une sorte d'une organisation, une lecture de l'organisation du réel qui est toujours subordonnée à un esprit managérial. Comme si tout se réduisait aux techniques, aux
la
sensibilités, qui est en vigueur dans une grande organisation privée comme une multinationale vouée à l'industrie, à la finance ou au commerce.
Les partenaires, vous développez beaucoup de concepts autour de cette notion de partenariat, d'équivalence induite de pouvoir entre un représentant de l'État et un représentant d'une grande entreprise autour d'un projet de ligne grande vitesse, d'aéroport ou autre, et de mettre les gens à égalité par ces méthodes-là, c'est quand même, ça induit un fonctionnement détourné des instances de l'État.
Oui, précisément, dans gouvernance, je me suis intéressé à la façon dont je me suis intéressé aux prémices d'un mot.
Les 50 prémices que vous avez
qui constituent le livre. Et en fait, les esprits forts croient souvent dominer le langage en estimant que les mots ne sont que les éléments d'un coffre à outils. Et on va dire, voilà, on dispose des mots. Et on va utiliser celui-ci plutôt que celui-là parce que ça plaira à tel pouvoir et on va plutôt mobiliser telle expression ou tel syntagme pour satisfaire tel partenaire, ainsi de suite. Bon. Alors que, si on est sérieux, on sait que les mots disposent de nous, qu'ils sont plus grands que nous, ils ont plus de mémoire, ils ont une puissance beaucoup plus grande, ils nous saisissent. Alors la seule liberté que nous avons par rapport aux mots est celle de pouvoir ou non les choisir. Mais une fois qu'on a pactisé avec eux, on doit savoir qu'on est pris. Bon.
Conditionne notre pensée, notre manière de penser, on
exactement.
Pense avec nos mots.
Donc du jour où on cesse de parler de politique et on parle de gouvernance, le jour où on arrête de parler des peuples et on parle de la société civile, le jour où on arrête de parler de la volonté populaire pour parler de l'acceptabilité sociale, le jour où on cesse de parler de l'écologie politique pour parler du développement durable, le jour où on cesse de parler de patients ou de lecteurs-lectrices ou de spectateurs-spectatrices pour parler de clients, on est pris dans un ensemble de prémices. Et les prémices sont les, l'enchaînement logique qui découle d'un mot que l'on a choisi et qui l'amplifie dans ses effets, l'amplifie dans ses usages et l'amplifie dans ses conséquences. Hein. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans gouvernance, c'est relever au grand jour ce qu'il en est de ses prémices. Et une des prémices de la gouvernance consiste en deux choses, deux mots fétiches. Là. D'abord, le consensus, à savoir que lorsque nous voyons le monde sur le mode de l'organisation de type gouvernance plutôt que sur le mode de la politique, qu'on récuse complètement parce qu'on a subordonné la gestion à la politique et on a fait comme si la politique désormais était caduque au profit de la gestion, on a hissé la gestion au rang de la politique, on a chassé celle-ci, eh bien on en vient à se dire, bon, au fond, n'y a plus de loi, il n'y a plus de référent qui vaut pour le bien commun, la chose publique, l'intérêt général. Il y a essentiellement des partenaires qui ont des intérêts privés et qui vont en parler en étant en quelque sorte, en visant un consensus, hein, que ce soit les élus locaux, le syndicat, évidemment le patronat, voilà, un groupe féministe, un groupe ainsi de suite, et on va essayer de greffer les intérêts des uns et des autres comme s'il ne s'agissait que de lobbying, parce que nous ne sommes plus que des petits lobbyistes de nous-mêmes, hein, on va les greffer à une sorte de projet majeur qui est celui de qui? Du plus fort. Et c'est là où entre en ligne de compte un deuxième terme qui est celui de l'inégalité. Et c'est tout à fait nouveau dans cette révolution anesthésiante que constitue la gouvernance. C'est qu'au nom de ce processus nouveau de contractualisation heureuse entre parties prenantes de la société civile, parce que c'est dans ce langage-là désormais qu'on décrit le monde, on en vient à ce postulat explicite, à savoir que le fantasme de l'égalité est révolu. Et là, on siffle la fin de la récréation, en quelque sorte, et pour la première fois depuis Thomas Hobbes, et pourtant qui n'était pas un proto-gauchiste, on a des traités politiques qui font autorité dans notre culture et qui pourtant récusent le principe d'égalité face à la loi, le principe d'égalité face à l'ordre et le principe d'égalité face à l'enjeu de la légitimation de l'autorité politique souveraine. On est à se dire, au fond, le monde est le fruit de rapports entre acteurs tout à fait différents et inégaux. Et c'est à ce titre que nous trouvons en fait un consensus, pas seulement sur les résultats d'une sorte de négociation qui pourrait y avoir au moment où on veut créer un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou exploiter le gaz de schiste par la fracturation hydraulique, mais un consensus qui va porter sur le langage, sur les mots que nous utilisons en amont quand nous entamons une délibération. Et c'est pour ça qu'on ne distingue plus de front. Et c'est ce genre de logique qui a fait que, dans un pays comme la France, par exemple, il est assez clair aujourd'hui qu'on n'a qu'à suivre les discours des partis de gouvernement, qu'il n'y a plus de gauche, qu'il n'y a plus de droite, il n'y a qu'un Macron. Il n'y a qu'une sorte de centre, qui, au fond, qui est diffus, confus, qui répond quand même au programme de l'oligarchie, ce que j'appelle finalement un extrême centre, c'est-à-dire un centre qui est intolérant envers tout ce qui n'est pas soi et qui se présente abusivement comme étant le centre, parce que c'est un programme destructeur, impérialiste, tout à fait écocide favorisant les inégalités sociales et qui est brutal, violent, cruel quand on l'analyse sur une échelle large, mondiale. Bon, mais il va se présenter comme étant le centre abusivement parce qu'il est intolérant à tout ce qui n'est pas lui, et tout ce qui n'est pas lui ne devrait même pas exister. Bon, et donc ce discours-là se présente comme tel, en se targuant de son espèce de pragmatisme, de sa neutralité et en faisant valoir donc cette approche.
La politique de l'extrême centre, là où on joue le jeu, là où on fait son chemin à l'intérieur des contraintes, on pioche un peu d'un côté, un peu de l'autre, on utilise néanmoins des méthodes, des mots, et on conditionne les discussions, ce que vous disiez, par les mots, on conditionne les décisions finalement. D'emblée, avant même que la discussion ait lieu.
Oui, et ce que j'essaie de faire pour essayer de comme cerner le modus vivendi le cadre politique et géopolitique du 21e siècle, c'est en pensant la politique, le dispositif scientifique et la modalité. C'est-à-dire, la politique, c'est l'extrême centre. J'en ai parlé. L'extrême centre, c'est l'extrémisme du centre. L'extrémisme n'étant pas l'endroit où on place le curseur sur l'axe gauche-droite, mais le caractère intolérant qui marque une position. Voilà. Donc, quand on est d'extrême centre, d'une part, on est extrémiste parce qu'on ne tolère rien d'autre que le discours que l'on a. On le présente comme étant normal, comme un certain président, ou vrai, comme un certain candidat aujourd'hui sous le tintamarre de ses propres casseroles, ou comme étant pragmatique, ou rationnel, ou neutre, ou pondéré, ou raisonnable, moderne, ou ainsi de suite. Moderne. Et on le présente en fait toujours, mais par rapport par une sorte de point d'équilibre. C'est pour ça que j'insiste sur ces mots-là, parce qu'on le présente toujours comme étant, au fond, nécessaire. nécessaire d'un point de vue d'une sorte de fatalité historique. Fatalité. Bon, donc on le présente comme étant aussi naturel que la loi de la gravité, et on s'auto-proclame, préconisant ce discours comme étant le centre. Et ce centre-là, qui n'est pas un centre, mais comme je le disais, qui est violent, qui est radical, qui est cruel, mais qui se présente comme étant le centre parce qu'il a aboli l'axe gauche-droite, ne tolérant pas de position autre que la sienne, il a un programme en 5 points, et vous le trouverez autant chez Tsipras que chez Trump, et les autres Varoufakis sont tout simplement éliminés du moment qu'ils ne pactisent pas avec ces termes-là. C'est plus d'argent pour les actionnaires, plus d'argent pour les multinationales, plus d'accès aux paradis fiscaux, moins de lois pour protéger les travailleuses et les travailleurs, et moins de fonds pour les services publics. Donc si vous adhérez à ce programme-là, ensuite vous pourrez jazzer ça comme vous voudrez. Ouais. C'est ça, vous pourrez faire du Fillon, faire du Macron, faire du Valls, faire du Montebourg.
Mais la ligne directrice,
c'est ça, tant. C'est ça. Ensuite, vous êtes comme l'ingénieur de son qui, avec ses aiguilles,
va mixer, quoi. Un peu plus d'aiguilles ou un peu plus de ceci.
Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est l'extrême centre, c'est la politique. Bon. Ensuite, la politique a sa méthode qui renvoie à une science qui est celle de la gouvernance que j'ai décrite, c'est-à-dire la gouvernance étant un art de tout réduire à la gestion. Il n'y a plus de politique. La politique a été déterminée sur un mode extrême en haut. Il n'y a que de la gestion. On gère, on digère, on résume au fait de savoir gérer. Et même dans des campagnes électorales, très souvent, on va explicitement réduire le corps électoral, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont des électeurs, des électrices, à des gens qui font partie d'un comité d'embauche. Vous êtes un comité d'embauche et vous élisez le meilleur ou la meilleure candidate. C'est-à-dire la personne qui est censée faire le travail, le job, comme s'il n'y en avait qu'un. Il n'y a qu'un job à faire parce qu'il n'y a qu'une politique, parce qu'on est extrémiste, on ne tolère rien d'autre que notre politique qui est le centre, qu'on présente comme étant pondérée de manière abusive parce qu'elle ne l'est pas. Et tout ce qui se pose, c'est de savoir qui est le meilleur. Bon, là, c'est pas Fillon parce qu'il traîne des casseroles. Il faudrait juste avoir quelqu'un d'autre qui est meilleur que lui. Mais c'est plus des idées qui sont en cause, si ce n'est que sur le mode du plus aigu, du moins aigu. Là, mais globalement, ce ne sont plus des idées. C'est la capacité qu'on a quand on se présente de se dire compétent. Que Christine Lagarde, ben, elle est bonne parce qu'elle est compétente. Sinon, ça pourrait être Montebourg parce qu'il est compétent ou il l'est moins. Mais on a plus que ce discours-là. Et la modalité, c'est la médiocratie. C'est de rendre les gens standards, remplaçables, parce que depuis 100 ans, tant du point de vue du travail manuel que du travail intellectuel, on a voulu, puisque les multinationales se sont développées à de très, très grandes échelles et ont abordé le travail tant manuel qu'intellectuel sur un mode tayloriste, sur un mode de la division du travail, sur le mode des grands ensembles d'organisation, on a voulu que les gens soient interchangeables, qu'ils soient des variables et qu'ils parlent de la même manière. Le vendeur d'assurance, s'il est remplacé le mercredi par quelqu'un qui n'était pas là le mardi, il doit parler comme la personne qui était là le mardi. Donc, on veut formater les gens, et pour les formater, il faut les rendre médiocres. C'est-à-dire qu'il faut les rendre médiocres, c'est-à-dire selon une moyenne incarnée. Une moyenne incarnée qui n'est pas la facilité, qui n'est pas la paresse, qui n'est pas la bêtise, qui n'est pas l'incapacité. Au contraire, c'est difficile d'être médiocre. C'est d'atteindre un standard qui est extrêmement régulé, extrêmement normé, extrêmement formaté, et il correspond et jamais faire moins et jamais faire plus. Et jamais être ingénieux et jamais avoir des principes et jamais avoir des convictions et jamais avoir des idées et jamais avoir des envies et des ambitions, juste se conformer. S'il faut en faire 28, on en fait 28. S'il faut on n'en fait pas 27, on n'en fait pas 29, quoi. Et c'est vrai autant à l'université que dans le domaine commercial, que dans le domaine de la recherche de pointe, que dans le domaine du travail manuel à la chaîne, évidemment. Et ça a commencé par là, parce que dénonce Charlie Chaplin dans les temps modernes. Mais on est rendu à ce genre de considération dans le travail non seulement intellectuel, mais aussi dans le travail tertiaire, où là entre en ligne de compte aussi un formatage des affects, où là il faut savoir désirer, savoir vouloir, savoir aimer, savoir penser, mais au sens là, affectif, comme on nous dit de le faire, avec des cours de type New Age sur l'esprit correspondant à la boîte, la culture d'entreprise. Et là on rend carrément fou les gens, parce qu'on leur demande plus seulement de livrer à l'entrepreneur, c'est-à-dire au détenteur de capitaux, la force de travail qui est la sienne, mais aussi ses affects et son pathos, quoi.
Jusque dans la vie privée, dans le quotidien de la vie privée. Abordons les multinationales, parce que à travers tout ça, il y a des logiques qui ont été, il y a des théories qui ont été écrites, pensées depuis longtemps dans le monde justement de l'économie, de la finance, et qui là, comme on le disait, se transpose dans la vie quotidienne de chaque individu, des déclinaisons de ces théories. Revenons à Total. Alors, de quoi Total est-elle la somme ?
Total, c'est la loi. Mais pas Total toute seule, les multinationales dont Total fait partie, en tant que les multinationales sont des partenaires, très souvent, dans les mêmes chantiers, dans les mêmes consortiums, ont des participations croisées et animent des lobbies fédérés, à l'échelle de l'Europe, par exemple, et ailleurs. Elles ont une force de frappe pour forcer les États, par exemple, à convenir de mécanismes de règlement différents qui leur permettent de les poursuivre comme des égaux. Elles sont capables aussi de s'inviter à la COP21 et d'être une autorité, un pouvoir particulier, propre à lui-même. Donc, cette autorité, ce pouvoir que représentent les multinationales dans leur ensemble et aussi prises une à une, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'exemple de Total dans mon livre, ont aussi, pour prérogative, de développer une loi, un type de loi qui n'est pas la loi du législateur. C'est une loi propre à ce pouvoir qui s'exerce d'une manière particulière, et c'est la loi économique, c'est la loi commerciale, c'est la loi du commerce. C'est cette loi, la loi du marché, qui répond d'une légalité, qui se veut loi au sens scientifique, comme la loi de la gravité. Évidemment, il s'agit d'un abus de langage. Il s'agit d'idéologie. L'idéologie déguise en science des positions d'intérêt. Donc, on déguise en science des positions d'intérêt, et donc on appelle loi du commerce, loi du marché, le fait d'imposer au monde un cadre duquel il n'est plus possible de sortir. Et comment cela est-il possible? Cela est possible notamment du fait qu'une multinationale n'est jamais une société. Ce sont des milliers de sociétés. Total est au moins 882 sociétés consolidées dans 130 pays. Ce n'est pas une société, c'est 882 sociétés consolidées, selon elles-mêmes, qui agissent dans un rapport de force inouï avec les États, sans qu'aucun État pris individuellement soit capable de peser ou d'encadrer la firme sur l'échelle qui est la sienne. Et donc, on voit des pouvoirs qui sont partout et nulle part, qui se fragmentent et qui sont extrêmement difficiles à contrôler, voire impossibles à contrôler, c'est-à-dire que ce sont des pouvoirs sans contre-pouvoir. Et c'est là où il y a un travail, je dirais, philosophique à l'œuvre, où il s'agit de créer des concepts et d'affiner des concepts pour être capable de suivre l'évolution de ces pouvoirs, plutôt qu'en de se les représenter comme s'il s'agissait de la boutique du coin. Une PME n'est pas à penser de la même manière qu'on réfléchit le boutiquier, quoi. Et il faut dire, vraiment modifier les notions qu'on mobilise pour les appréhender.
Est-ce qu'il y a vraiment des pilotes dans 882 sociétés réparties de par le monde, d'échelles de tailles diverses? Est-ce que tout marche comme un seul homme parce qu'un homme, à un moment donné, a dit « on va vers là » et tout le monde s'y met?
Ben, quand il y a un pilote et le PDG assis derrière et qu'il meurt sur une piste de décollage à Moscou en 2014, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans un régime autoritaire de type psychotique, comme c'était le cas dans les totalitarismes que Hannah Arendt décrit dans son livre sur l'origine des totalitarismes, où il est question de l'hitlérisme et du stalinisme. On n'est plus à un stade où, si on bute Hitler, on sait que le pouvoir va chavirer considérablement parce qu'il sera atteint de manière névralgique. Bon, on est passé d'un totalitarisme psychotique à un totalitarisme pervers. Les totalitarismes pervers consistent à diffuser la source du pouvoir et même à l'objectiver et à intégrer à petite échelle toutes les parties prenantes concernées par ce pouvoir-là, les clients, les communautés locales, les États, les élus, les fournisseurs, les partenaires, dans une sorte de vaste logique où tout le monde devient le rouage d'une machination qui n'a plus de gouvernant. On peut même aujourd'hui spéculer massivement à la bourse en utilisant des algorithmes. C'est-à-dire, on en est à suivre une marche du monde qui n'est contrôlée par personne. Et le but du pervers est précisément de pouvoir dire, c'est l'ordre même des choses, c'est une loi qu'on a rendue effective, qu'on a rendue opérationnelle. Cette loi-là nous gouverne, nous aussi, et il s'adonne qu'elle fait de nous des multimilliardaires, tandis que la pauvreté sera un mode absolument indigent, plus de la moitié de l'humanité. Bon, et sans parler d'ensuite de strates sociales et de classes sociales là, qui sont affectées au point où la classe moyenne se réduit comme peau de chagrin. Donc, on est face à un ordre où, effectivement, le pouvoir est pervers, et il est, en quelque sorte, il s'est constitué comme technique industrielle et technique juridique qui permet de dire ce qu'on fait est légal, ce qu'on fait est dans le sens de l'histoire, ce qu'on fait est irrépressible, que voulez-vous, c'est ainsi que le monde évolue, et on a intérêt simplement à essayer de tirer son épingle du jeu dans cet ordre-là, et nous, on n'est pas la source du pouvoir, on s'est simplement organisé pour sortir gagnant de toute conjoncture. La conjoncture pourra évoluer comme vous l'imaginez. Nous, on ne fait pas seulement du pétrole, on fait du solaire, on fait du gaz, on fait de l'électricité, on fait du biocarburant. On est dans les modes alternatifs, on est dans l'énergie du futur, tout en étant dans l'énergie du passé. On contrôle toutes les opérations de la chaîne, de la recherche de pointe à l'exploration, à l'exploitation, au transport, au traitement, au raffinage et à la distribution, à la commercialisation en gros et au détail. Nous maîtrisons tous les aspects et du coup, quoi qu'il arrive, une crise, une tension sociale, des élections qui tournent d'un côté ou l'autre, nous sommes toujours capables de tirer profit de la conjoncture et donc la conjoncture nous amènera où qu'on veuille, nous serons toujours les plus forts.
Waouh.
Mais ça va bien quand même.
Mais ça va bien quand même. Parce que on a envie de se demander quand même qu'est-ce que l'individu conscient, du coup, partiellement au moins conscient de ces machines à broyer la moitié de l'humanité, voire les trois quarts, qu'est-ce que concrètement, individuellement, comment on résiste, comment on lutte, est-ce qu'on a encore quelques grains de sable à mettre dans ces engrenages pour faire en sorte que la machine broie pas tout?
Ben, la première chose, si je reprends la question, c'est de cesser de se considérer des individus. Parce que se considérer comme un individu, c'est justement se plier aux suggestions idéologiques de l'heure. C'est justement céder à la façon qu'a le pouvoir de nous représenter nous et de nous convaincre que nous ne sommes que ça, des individus.
Des intérêts propres.
Exactement. Je ne suis qu'un individu qui mange des plats surgelés en regardant TF1 dans son studio. Qu'est-ce que je peux faire? Ben rien, parce qu'on nous a enfermés là. Mais l'histoire a toujours été l'affaire des peuples. L'histoire a toujours été l'affaire de sujets collectifs. L'histoire a toujours été l'affaire de minorités intenses, qui étaient collectives. C'est-à-dire que c'était des groupes qui se constituaient d'une manière tellement intense, tellement concertée, tellement déterminée qu'elle avait, elle avait valeur de peuple. Elle faisait figure de peuple. Et donc, si on rompt avec cette idée que nous sommes des individus, et nous voyons comme des sujets collectifs capables d'œuvres sociales, politiques et militantes de grande envergure, comme ça a été le cas dans certains grands crus de l'histoire, 1848, 1968, 2011, il y en aura d'autres, et de plus en plus. On peut penser qu'aux États-Unis, là, il y aura en ce sens une réplique à ce qui se produit. Il y aura des avancées, lesquelles il faut vivre l'histoire. Ce n'est pas dans un livre ou dans une entrevue qu'on le dira, mais il faut que l'histoire se vive. Mm-hmm. Elle mérite d'être vécue et c'est là où on peut cesser d'être pessimiste. Quoi.
Et de toute façon, collectivement.
Nécessairement.
L'exemple de la soirée de ce soir, pour revenir là dans quelque chose de plus direct, plus concret, plus réel. Une association qui invite un auteur, et il y a tout à l'heure une personne qui était de passage ici, que vous avez vu il y a quelque temps. Oui. Les liens sont tissés, les liens se tissent, les liens existent entre les êtres humains qui habitent à Toulouse, à La Rochelle, à Paris ou à Montréal, peu importe. Les liens sont là, la conscience de ce qui se passe est là.
Et quand ça ira mal, mais vraiment très mal, quand il y aura une crise, non seulement celle que l'on traverse dès maintenant, mais une crise qui sautera aux yeux et qui paralysera sur le champ les gens, on se rendra compte que ces réseaux qui pensent, qui s'organisent, qui ne cèdent pas à la fatalité, auront été tout ce temps-là des avant-gardes. Et on les verra à ce moment-là comme tels.
Merci beaucoup,
merci.
Monsieur Alain Denaud, de nous avoir accordé ce moment de discussion à la fois un peu pessimiste, mais aussi avec beaucoup d'optimisme, parce que les réseaux sont là et ils seront nécessaires.
Merci à vous.
Merci beaucoup encore. Au revoir.